Tu es un Père aimant. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as beaucoup aimés. Tu nous as donné ton Fils, ton unique Jésus. Tu l'as livré pour nous sauver. Toi, le Dieu juste, tu voulais exercer ta justice, car celle-ci réclamait vengeance. Mais par ton amour, tu voulais manifester miséricorde. Et Jésus est venu mourir pour accomplir la justice de Dieu, pour que l'amour de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, oh Dieu. Et ce matin, tu vas nous témoigner encore de ton amour, parce que tu vas parler à nos cœurs. Tu vas édifier tes enfants, Seigneur. Tu vas délivrer, tu vas sauver. Tu n'es pas là pour juger, pour te venger, Seigneur. Tu es là pour relever, pour fortifier, pour faire du bien. Parce que nous sommes tes enfants. Aucun père ne crée ses enfants. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci de bénir ton serviteur que tu t'es choisi ce matin pour nous parler. Merci de déverser sur sa tête ton onction, Seigneur, afin qu'il parle comme jamais avant. Bénis-le, Seigneur, et prépare ton peuple à recevoir avec joie ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous avons un fils de la maison qui va nous parler de la part de Dieu. Nous les connaissons très bien et il n'est pas à présenter. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit bien du pasteur Martins Mukanda, qui est le pasteur de notre extension, l'extension de la Bannière à Lausanne. Il dirige une église qui évolue très bien. Dieu bénit cette église et l'église grandit. Le pasteur Martins nous vient fraîchement de Lomé, où il vient d'achever son programme de master en théologie. Il est en train de rédiger maintenant son travail de fin de cycle. Et c'est lui qui va nous parler de la part de Dieu. Est-ce que nous sommes contents de le recevoir ce matin? Pasteur Martins, toute la place est à vous.
Merci beaucoup, Pasteur Élie. Que le Seigneur vous bénisse pour la présentation. Je suis toujours dans la joie lorsque je me retrouve ici, parce que c'est ici qui est considéré. Je considère ici comme Nazareth pour moi. Je suis né ici et je grandis ici. Est-ce qu'on peut partager cette joie ensemble en acclamant le Seigneur? La joie, mais une responsabilité aussi. Je veux d'abord dire merci, exprimer ma gratitude au pasteur et maman Cécile pour cette confiance. C'est pas facile. Ce sont eux qui nous encadrent et ils continuent toujours à nous former et à nous laisser la place comme ça pour parler. Et c'est une marque de confiance. C'est pourquoi nous disons merci et nous bénissons Dieu pour ces instants particuliers qu'il nous accorde. Je pense que le Seigneur va faire quelque chose dans nos vies. Je vais prier un peu. Tendre Père, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, sois derrière ta parole. Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as envoyé cette parole. Fais quelque chose, je t'en prie. Par ton esprit, agis. Seigneur, guéris. Seigneur, sauve des vies. Merci, Saint-Esprit, parce que tu seras avec moi. Assiste-moi. Que je sois derrière toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. La lecture partira du verset 16 et nous irons jusqu'à la fin. Donc au verset 30. « Non, pas jusqu'à la fin. Nous allons nous arrêter au verset 30. Est-ce que nous y sommes? Je vais lire pour tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajoute-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qui eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de là, de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Guérir des blessures intérieures, c'est le thème que nous pouvons voir ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne dont le cœur est blessé blesse les autres. Il se blesse lui-même. Celui qui a des blessures au niveau du cœur, il fait pourrir la vie des autres en se détruisant lui-même. C'est comme un éléphant qui est atteint d'une balle, il va commencer à détruire les arbres partout où il passe. Il va dévaster les choses jusqu'à ce qu'il va mourir. C'est pour cette raison, le Seigneur Jésus-Christ en fait une urgence prioritaire. Il propose son service de guérison. Et dans ce propos, repris ici par un autre médecin authentifié, parce que cet évangile a été écrit par le médecin Luc, et c'est lui qui reprend le propos de Jésus, nous pouvons avoir 3 observations à faire ce matin. D'abord, les caractéristiques des blessures intérieures. Et puis, les blessures intérieures affectent, les blessures intérieures attirent le péché. Et la troisième observation, les blessures intérieures affectent les comportements de l'homme. On peut commencer notre analyse par la première observation, les caractéristiques des blessures intérieures. Regardons le terme que Christ est en train d'utiliser dans le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui saigne. C'est un cœur qui souffre. C'est un cœur qui a des blessures. Et Christ n'est pas le seul à faire ces rapprochements dans la Bible. David, qui en a beaucoup souffert et qui se faisait guérir par les psaumes, il écrit ceci dans Psaume 109, 22. Il dit, « Délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Et Jérémie poursuit, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi. » Jérémie 23, 9. Tel que tous l'expriment, les blessures intérieures sont douloureuses comme les blessures physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, un cœur qui est brisé, c'est un cœur qui souffre. Les blessures intérieures font mal, comme les blessures physiques. Même si elles paraissent petites, mais elles font mal, très mal. C'est comme une piqûre. Des fois, lorsqu'on veut nous piquer, moi, je ne savais pas que le médecin avait peur de piqûre. Le médecin n'aime pas la piqûre. Lorsqu'on veut le piquer, ah, ils ne veulent pas. Nous, on pensait que c'est nous qui avons peur. Mais les enfants pensent aussi que ce sont eux qui ont peur des piqûres. Une petite blessure, on en a peur. Une fois, les amis, mes enfants, j'étais malade, je dis, bon, je devrais aller à l'hôpital. Les enfants disent, hey, nous allons t'accompagner. Je ne savais pas leur plan. Ils avaient un plan. J'ai dit, ok, vous allez m'accompagner. Et puis ils arrivent là, mais ils me posent la petite lamédie, est-ce que tu vas pleurer? J'ai dit, non, je suis une grande personne. Et lorsque j'étais avec le médecin, il demandait d'entrer. J'ai dit, fais entrer parce qu'ils ont l'âge quand même d'entrer. Ils sont entrés et quand on me piquait, j'avais peur hein, quand la piqûre avançait. C'est une peur, même si ça fait un peu. Et après, je ne vais pas pleurer. La petite l'a dit, mais papa est fort. Il n'a pas pleuré. Bien-aimé dans le Seigneur, même des petites piqûres, ça fait mal. Des petites blessures là, hein, faites par la piqûre, ça peut déranger. De même que des petites piqûres, des petites blessures intérieures font mal. Imaginez quelqu'un qui vous regarde avec dédain. Elle monte le regard, la personne monte, vous regarde et puis descend. Et pire encore. Peut-être avec des débits. Et puis pire encore, si la personne jette les salives. Et vous vous dites, mais c'est quoi ça? Deux fois, on peut vous dire, mais j'ai quelle odeur ça? Et quand on se contrôle, on se dit, mais finalement, mais ça va très mal. Ça fait mal, ne fût-ce qu'un regard, sans parler. Ce genre de gestes font mal. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous nous blessons sans nous en rendre compte. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir pitié entre nous. Nous blessons les enfants, nous blessons nos femmes, nous blessons nos amis, nous blessons nos frères. Imaginez quelqu'un qui peut traiter d'une femme sale. Mais ça, c'est profond. Traiter d'une femme sale. Mais vous la blessez. La blessez. Et cette blessure, surtout si c'est une personne qui est proche, ça sera une blessure profonde et très dangereuse. Vous allez voir par l'attitude, la personne à qui vous avez adressé, si vous êtes proche, va changer d'attitude. Parce que vous l'avez blessé. Peut-être, elle peut dire que vous m'avez blessé. Mais peut-être peut se réserver. Se réserver pour éviter d'être encore blessé. Il y a d'autres femmes aussi qui disent, mais mon mari, quel mari qui n'a pas de valeur. Dire à un homme qui n'a pas de valeur, ça blesse. Ça fait très mal. Et souvent, ça pousse vers des comportements étranges. Une blessure physique abandonnée et non traitée peut s'infecter, de même que les blessures intérieures non traitées et non soignées peuvent s'empirer. Pour éviter ces genres de blessures entre les enfants de Dieu, la parole de Dieu dit dans Galates 5:15, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On se mord, on se dévore par le langage et ce genre d'attitude détruisent les autres. Ça détruit les autres. À la maison, on se mord. À l'école, on se mord. À l'église, on se mord. Sur la route, on se mord. On ne fait que se blesser. Surtout ici, il y a qui ça. Il faut avoir les liens solides. Heureusement, les blessures intérieures des injures, dues aux injures, et dont on reçoit des personnes qu'on ne connaît pas, ne prennent pas beaucoup de temps pour se guérir. Ça se guérit comme des petites blessures comme ça. Mais vous allez voir, il suffit d'un petit incident sur la route, un papa qui a fait même une erreur, t'as la boucole au papa, oyo. A Okumane, Kendenamboka, va au village. Donc, on se permet des vocabulaires, des termes comme ça, sans se rendre compte que ça fait mal. En plus, bien aimé dans le Seigneur, une plaie physique qui n'est pas soignée attire les mouches. Les blessures intérieures non traitées attirent le péché. Voilà notre deuxième observation. Les blessures intérieures attirent le péché. Nous avons cela dans le verset 28 de notre passage. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Lorsque Jésus-Christ leur fit savoir qu'ils étaient incrédules comme leur père à l'époque des prophètes Élie et Élisée, ils piquèrent d'une vive colère. Et ils voulaient les tuer. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette lecture. À partir du verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils s'étant levés, ils les chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la ville sur laquelle Nazareth était bâti. Nazareth était bâti sur une montagne. Ils l'ont entraîné. Ils voulaient les tuer. Mais pourquoi? Parce que ce peuple était agressif. Tous nous connaissons les comportements, même la conduite des Sadducéens. Nous connaissons le comportement, l'attitude de pharisiens, des hérodiens. Ce peuple était un peuple juif, un peuple agressif. C'est par rapport aux situations que ce peuple avait connues. Ils sont devenus très méchants entre eux, jusqu'à adopter même la crucifixion. Est-ce qu'on a l'idée de la crucifixion? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même a horreur, il a peur du sang. Nous sommes quelle génération? Le sang ne nous dit rien. Comment on peut clouer quelqu'un à la croix? Ça, c'était la méthode punitive des païens, des romains. Mais à cause des blessures intérieures de ce peuple, ces gens, ce peuple a accepté de crucifier leur frère à la croix. Et ils l'ont fait aussi avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est blessé, il y a différentes réactions. Ceux qui sont blessés, qui ont été maltraités, deux fois, ils deviennent agressifs. Comme c'est le cas de Moïse. Moïse, lorsque vous regardez sa vie, c'est quelqu'un qui était blessé. Et sa première réaction, lorsqu'il avait vu un de ses frères être maltraité, il avait commis le meurtre. Il ne pouvait pas se retenir. Mais Moïse, c'est quelqu'un. D'abord par son nom. Moïse signifie quelqu'un qu'on a tiré des eaux. Si on dit tiré des eaux, on peut comprendre, on peut relativiser. Mais c'est quelqu'un qu'on a ramassé. Et quand il grandissait, en examinant même son nom, il se rendait compte qu'on l'avait ramassé. Même s'il était dans une maison, il y avait beaucoup de choses à manger. Il y avait beaucoup de richesses. Mais c'est quelqu'un qu'on avait ramassé. Tous ceux qui ont été ramassés vivent avec des blessures. Parce que c'est pas normal. Pourquoi être ramassé? Et ce qui était plus fort avec Moïse, c'est que Moïse était le survivant presque de tous les bébés. Moïse, on l'avait protégé, alors que tous les bébés étaient exterminés. Il avait le traumatisme. Il pouvait avoir le traumatisme. On a tué tous les bébés. Et lui, il s'est rendu compte qu'on m'a ramassé parce que tous les bébés étaient exterminés. D'où Moïse était quelqu'un, à un certain moment, qui pouvait même se chercher. Où est mon identité? Quand Dieu le rencontre, il le rencontre dans Exode 4, 10. Il est en train de dire à Dieu, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car la bouche et la langue embarrassé. Il parlait pas bien. Beaucoup de gens qu'on a maltraités à l'enfance, ces blessures peuvent même arrêter une croissance normale. Une fois j'avais entendu, je ne sais pas s'il y a des gens qui prêchent même sans lire la Bible. C'est triste. Il y a des gens, il y a des élites. Vous prêchez et puis sans lire la Bible. Mais c'est une aventure ça. Et quelqu'un qui racontait, non, Moïse, il bégayait. C'est parce qu'il était dans les déserts et il vivait avec les animaux. Waouh! C'est pourquoi il n'avait pas le langage facile. Non! Et même dans les déserts, Moïse ne vivait pas avec les animaux. Il était chez son beau-père. Tous ces 40 ans, il était chez son beau-père. Même quand vous voyez la rencontre, Moïse était devenu le berger. Le troupeau de son beau-père. Mais c'était les douleurs. Les douleurs. Et dans cette rencontre, Moïse est en train de dire, lorsque Dieu lui donne la mission d'aller libérer son peuple, Moïse est en train, qui suis-je pour le faire? Moïse ne se connaît pas. Mon Dieu, mais qui suis-je? Qui suis-je? Et plus tard, dans Exode 17, 2, On va nous informer que son beau-père lui avait ramené sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait renvoyé sa femme. Quand quelqu'un qui a des blessures, c'est difficile. C'est difficile de vivre avec lui. Il avait renvoyé. J'essaie de lire toutes les versions de la Bible pour que je ne sois pas facilement contredit. Tout le monde emploie le verbe renvoyer. Et je suis allé même à la version 70. Et là, ça renforçait encore mon étude. On parle après séparation. Après séparation. Même lorsque vous lisez, vous voyez que ce n'est pas Moïse qui avait envoyé le message pour qu'on lui amène sa famille. Non. Et la Bible est très claire. Moïse n'avait pas envoyé toute sa famille, c'est-à-dire la femme et ses deux enfants. Mais on précise, Moïse avait renvoyé seule sa femme. Et on lui a ramené, lui et ses enfants. Il n'a pas fait les démarches. Si c'était pour protéger sa famille, comme d'autres le disent, j'en doute fort. Parce qu'il n'a pas fourni un grand effort, mais c'est son beau-père qui est sage, qui lui a ramené Séphora. Je te ramène, Séphora et tes enfants. Et ils ont eu le temps de s'entretenir. Les blessures intérieures poussent à l'agressivité, à la violence. Elles rendent des gens amers et insupportables. On fait du mal aux gens qu'on aime. La femme, le mari, les enfants qu'on aime, mais on les maltraite inconsciemment. Je connais, lorsque on était en train de grandir, un papa qui était à côté de mes miens. Ce papa-là, il aimait bien sa femme. Lorsqu'il y avait des nouveautés, ce papa-là ne pouvait pas s'en passer. Toutes les bonnes choses-là, il achetait toujours pour sa femme. Il avait un grand amour pour sa femme. Des fois, il lui amenait des pagnes et tout ça. Mais des nouveautés comme ça, ce papa-là ne pouvait pas les laisser comme ça sans en donner cadeau à sa femme. Mais lorsqu'il y avait un petit différent, il avait des réactions étranges. Il ne pouvait pas se contrôler. Parce que c'est quelqu'un qui était blessé. Et des fois, on se disait, ben, c'est papa ici, c'est la folie ou quoi? Parce que il prenait la chaîne et il demandait à sa femme, monte un peu, monte. Sa femme montait. Et quand la femme arrivait à la toiture, il retirait les chaînes. Il disait que tu vas rester là-bas, c'est ça ta punition. Et la femme pouvait rester là pendant des heures. Et puis à un moment, il revient avec les chaînes. Lorsque la femme descend, il dit, « Regarde un beau maillot. Hein? Mais, t'as la rara. Je voulais, parce que j'allais te faire du mal, alors j'ai résolu. Que... » Et ça, les enfants, vous voyez. Plus tard, j'ai vécu avec un de ses enfants. Mais il battait sa femme. Battait sa femme parce que l'enfant était aussi blessé. D'autres personnes sont toujours fâchées. Vous les remarquez, non? Il y a aussi les rares. Des gens toujours fâchés. Et l'ongigara au kag. Ah, vous tendez les nignes. Il y a des gens qui ne saluent même pas les autres. Il y a un problème. C'est un symptôme que la personne soit a été blessée. Parce que les blessures dont nous sommes en train de parler, c'est souvent les blessures lorsqu'on est grandi, lorsqu'on est maltraité. On est maltraité. Et des gens comme ça, ils sont à la base même des différentes guerres que nous avons dans le monde. Essayez d'examiner, essayez d'étudier. Ce sont des gens qui ont des blessures. Et souvent, lorsqu'ils sont dans l'agressivité, ils n'ont pas pitié. Certes, ce sont des victimes. Elles sont en train de réclamer la vengeance, comme c'est le cas des Kulunas. Les Kulunas crient à la justice, à la réparation des choses qu'ils vivent dans leur maison, mais on ne les comprend pas. Il y a des parents aussi qui traitent leurs propres enfants de bêtes, insensés, fainéants. Souvent, c'est la manifestation des blessures intérieures connues à l'enfance. Mais si tu penses que tes enfants sont des bêtes et insensés, pourquoi tu continues toujours à mettre au monde? Parce que tu traites des enfants qui sont censés apprendre auprès de toi, de l'éducation, mais tu les traites des bêtes. Les enfants dont tu appelles, dont tu traites bêtes, imbéciles, fainéants, ils ne savent pas réagir auprès de vous. Mais ils encaissent. Plus tard, ils vont manifester ça. Ils vont manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention aux paroles que nous prononçons. Ça peut détruire les autres. Ça peut détruire des vies. Et ça peut aller plus loin parce qu'il y a des conséquences néfastes dans des paroles, dans des gestes. Je pense qu'à un certain moment, il y a au moins 15 ans, il y avait une histoire qui s'était passée ici à Kinshasa. Une maman était en train de laver son bébé et un de ses enfants plus âgés était venu là à côté et elle jouait avec de la boue. La maman était en colère. Elle a commencé à injurier cet enfant-là. Et puis finalement, elle a dit, mais toi, tu es insupportable. Je ne sais pas te supporter. Il faut que tu meures. Il faut que même tu meures pour que tu me laisses en paix. Et elle voulait poursuivre l'enfant. L'enfant avait pris fuite. Elle était sortie de la parcelle. Et de là, il y avait un véhicule qui passait. Le véhicule avait ramassé l'enfant. Elle ne savait pas et continuait à laver le bébé. Les gens ont crié. Et quand ils sont entrés dans la parcelle pour lui donner la nouvelle, elle avait abandonné même le bébé dans le bassin. Elle est allée, c'était trop tard. Son fils était déjà mort. Elle a pris son fils. Et quand elle venait avec son fils, elle a trouvé. Le temps qu'elle a passé derrière et dehors, elle a trouvé que le bébé s'était noyé aussi. L'enfant était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Nous, enfants de Dieu, nos bouches ne sont pas pour maudire. Ne maudissons pas. Souvent, l'ennemi s'est saisi de nos paroles pour nous faire du mal, pour nous détruire. Faisons attention. Parce que non seulement les blessures peuvent nous pousser à l'agressivité. Mais les blessures peuvent nous pousser aussi aux mensonges et aux incompréhensions. Quelqu'un qui a été blessé pendant longtemps, il recourt toujours aux mensonges. La première réaction, c'est le mensonge. Moi, si d'ailleurs, à cause de la mingi, il faut comprendre. Attends, on va prier, le bâtiment va au Kénéré. Il faut voir sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a été blessé et chaque fois qu'il y a quelque chose de brusque, elle veut se protéger. Elle veut se protéger et puis il y a les mensonges. Des mensonges répétitifs. Des mensonges sans valeur. Non justifiés. Prouve qu'on est blessé. Et ça, nous avons besoin de Dieu. Dieu peut guérir. D'abord, il faut en être conscient. Lorsqu'on est conscient avec les hommes de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Je suis envoyé, alléluia, le Père m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. » Ah, quel texte merveilleux. Dieu peut guérir toutes ses blessures. Il peut guérir. Et lorsque les blessures touchent ou bien nous attirent vers le mensonge, ça peut aussi toucher notre comportement. C'est la troisième observation. Les blessures intérieures détruisent notre comportement. La première des choses qu'on peut remarquer, c'est la faible estime de soi. Dans le verset 23, nous voyons comment ce peuple est devenu insensible. Jésus est en train, parce que quand il a parlé, J'ai été envoyé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je dois guérir les cœurs brisés, je dois proclamer la délivrance aux captifs. Et puis, il remarque que, dans leur cœur, ils se disaient, guéris-toi toi-même. Il dit, mais toi, l'enfant de Joseph, depuis quand tu es devenu médecin? Hey, Jésus leur dit, oui, je sais que vous allez m'appliquer ces proverbes-là. Depuis la domination de Perses, de Grecs et de Romains, les Juifs étaient toujours dominés sur leur territoire et avaient perdu la confiance en eux. Lorsqu'on perd la confiance en soi, on perd aussi l'estime pour soi-même. Et ici, ce peuple était insensible à la bonne nouvelle. Les blessures intérieures entraînent le plus souvent le manque d'estime de soi. Lorsqu'on est dominé, on se sent josifié et animalisé. Parce que la parole de Dieu dans Genèse 1, 28 dit ceci. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Quelqu'un qu'on réduit au niveau d'un animal ou d'une chose perd par lui-même la bonne image de soi. Maltraiter quelqu'un, blesser quelqu'un, pas des paroles, les blessures intérieures déforment l'image que nous avons de nous-mêmes. On a un sentiment d'infériorité. On est inférieur par rapport aux autres. Et ceux qui manquent l'estime de soi n'ont aucune confiance en eux. Ils pensent que la malchance le poursuit. Oui, si vous pensez comme ça, c'est comme si la malchance vous poursuit. Tout ce que vous faites là, c'est comme si la malchance vous poursuit. Ils ont du mal à prendre des décisions. Ils reportent toujours des décisions. Ils ont du mal à assumer leurs responsabilités. Et ils sont toujours dépendants, ceux qui sont. Ces sentiments paralysent beaucoup de chrétiens malgré leur conversion et leur expérience spirituelle. Il faut les encadrer. Et les pasteurs sont là. Béni soit Dieu parce que ici il y a plein de pasteurs qui peuvent accompagner les blessés. C'est un sentiment. La faible estime de soi, c'est un sentiment que Satan utilise beaucoup pour introduire la vie de défaite et de l'échec dans la plupart des enfants de Dieu. Christ revient sur cette réalité dans Matthieu 18, 24, où il parle de la parabole de trois hommes à qui on avait remis des talents. La troisième personne lui avait donné un talent. Mais il est allé en terrain parce qu'il avait peur. Il a dit, mais qu'est-ce qui passera? Qu'est-ce qui se passera si je n'arrive pas à fructifier ces talents? Il est allé en terrain. Avec la faible estime de soi, avec la peur, on ne peut rien faire de bon. Bien-aimé dans le Seigneur, cette attitude détruit nos rêves. Sans oublier que l'une des caractéristiques de la Pentecôte, c'était avoir de rêves. Parce que nous avons dans Actes 2, 17 qui reprend la vision, ou bien la prophétie de Joël, qui dit ceci. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous aide à avoir des rêves ambitieux, des rêves audacieux, avoir des visions de ce que Dieu peut faire avec nous, et en particulier avec toi. Coup de chapeau pour tous ceux qui font des exploits dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous crée, ce n'est pas pour des petites choses.
Et ça, c'est pour chacun de nous. Lorsqu'on fait de petites choses, soit on a peur, soit on ne se réalise pas. Notre Dieu ne peut pas passer son temps à créer quelqu'un pour de futilité. On ne fait rien. Non, tous nous sommes créés pour faire les exploits. Tous nous sommes créés pour faire les exploits et aller de l'avant. Tu es créé pour faire de grandes choses et nous t'attendons. Nous t'attendons. Sors de la peur. Sors de la crainte. Guéris-toi comme David. David, vous voyez, c'est quelqu'un qui était tout le temps blessé. Mais lorsque vous lisez ce psaume, il utilisait une des méthodes de guérison. Souvent, lorsque on a du mal, on cache. Non. La première méthode pour être guéri, il faut partager. Il ne faut pas garder. Et partager avec votre époux, partager avec votre femme. Vous souffrez et vous ne dites rien à votre mari. Il faut partager. Parce que le mari ou bien la femme, c'est elle qui est intime. Partagez comment vous avez souffert dans votre enfance. Et le mari qui écoute ça doit encourager, doit être attentif, doit être à l'écoute. Doit pousser l'autre, donc le conjoint qui écoute, doit pousser l'autre à parler, à vider vider l'intérieur. Parce que lorsqu'on garde ces choses-là, ça crée des tensions. J'étais en train de parler avec une maman, j'ai eu pitié. Chaque fois quand vous parlez avec quelqu'un qui souffre de ces choses, je vous dis, vous avez pitié quand il commence à parler. Nous avons connu deux fois une enfance difficile. Une enfance difficile. Alors commencez par partager avec des personnes de confiance. Il faut parler. Lorsque vous gardez, vous vous détruisez. Et David, en dehors de ça, il parlait à Dieu. Parle à Dieu. Sors. Regardez. Deux fois, on s'est dit, mais comment ici David est en train d'utiliser les psaumes d'imprécation, de malédiction. Mais il parle de son plein du cœur. C'est pour vider. Vider. Il parlait de tout ça. Et ça, c'est curatif. Dieu, par sa miséricorde, Dieu qui connaît nos souffrances, il va aussi nous guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer ce message, on peut retenir que les blessures intérieures sont comme les blessures physiques. Comme celle-ci s'infecte sans guérison, elle attire le péché. Et comme on cherche à se protéger face à d'autres blessures, comme on aime bien les dire, un chat échaudé évite même l'eau froide. Lorsqu'on est blessé, on évite qu'on soit encore blessé. Et Dieu veut faire un exploit avec chacun de nous. Avec chacun de nous dans un domaine précis. Car il n'a créé personne sans valeur. Il n'a jamais créé une personne sans valeur. Dans tout domaine. Tu peux toujours exceller. Tu peux étonner dans un domaine. C'est possible lorsque tu fais confiance en toi et tu fais confiance à celui qui t'a créé. Deux fois, Dieu est en train de regretter. Mais comment sont-ils distraits? Allez-y. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu est en train de vous dire, allez de l'avant. Allez de l'avant et faites les exploits. Allez de l'avant et faites des grandes choses. Vous allez réussir. Ne craignez pas. Et pour bien terminer, je vais donner une petite histoire. C'est de Charlie. Charlie, c'était quelqu'un qui était tout petit et qui avait des défauts corporels. On ne pouvait même pas. Les gens s'est moqué de lui. Mais Dieu lui avait donné une forte intelligence. Les gens pouvaient le ridiculiser, se moquer de lui, mais Charlie avait toujours de l'estime pour lui. Une fois, on l'avait appelé pour réparer une usine qui était tombée en panne.
tout le moteur était aux arrêts. Charlie est venu, il a regardé, et puis c'était pour Ford. Et puis il a pris le papier, tout ça, et puis il a dit, allez, touchez là-bas. Les machines se sont mises en marche. Et puis pour partir, il a laissé une facture de 10 000 dollars. Alors Ford, qui était responsable de l'usine, il regarde, mais Charlie, il avait beaucoup d'argent, Ford, le propriétaire de l'usine. Il dit, mais Charlie n'a pas fait même 2 heures. Pourquoi il peut me donner une telle facture? C'est trop élevé. Et il écrit à Charlie. Charlie lui écrit, il donne les détails. Pour avoir réparé le moteur, je te demande seulement 10 dollars. Mais comme je savais réparer par mon savoir, ça te coûte 9 990 dollars. Et quand Ford a remarqué, il a payé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reconnais tes valeurs, tu vas aller plus loin. Que le Seigneur soit glorifié.
Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laissez pas mourir vos rêves. Ne vous sous-estimez pas. Il y a des gens qui ont laissé leurs rêves mourir. Ne laissez pas vos rêves mourir parce que vous avez de la valeur. Levez la tête. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. N'entretenez pas l'amertume, n'entretenez pas les blessures intérieures. Ne vous détruisez pas vous-même. Ce matin, vous devrez faire quelque chose. Vous qui êtes dans ces blessures, vous devrez sortir de ces blessures. Vous devrez pardonner ceux qui vous ont blessé. Vous devez vous ressaisir et reconsidérer vos rêves et vous relever. Dieu est avec vous et Dieu vous bénira. Et vous qui avez blessé les autres, là je m'adresse particulièrement aux maris qui blessent leurs épouses. Vous êtes ces poisons qui ont détruit le cœur de quelqu'un. Reconsidérez cela et demandez pardon. Et parlez avec la personne qui vous a blessé. Et bien plus vous qui avez été blessé, parlez avec celui qui vous a blessé. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se sent concerné par cette parole, qui a besoin de la grâce de Dieu parce qu'il a été blessé ou parce qu'il blesse souvent? Levez-vous, la main là où vous êtes. C'est votre jour de guérison. Et ça veut guérir un cœur ce matin. Merci pour les mains qui s'élèvent. Levez bien la main. Merci. Merci. Votre cœur est blessé. Ça saigne au-dedans de vous. Vous pleurez tout le temps. Levez la main. Vous avez l'habitude de parler mal, de sortir des venins de votre bouche. Vous êtes mari, votre femme en souffre. Levez la main là où vous êtes vous aussi. Merci. Et vous qui avez levé la main, levez-vous s'il vous plaît là où vous êtes. Levez-vous s'il vous plaît. C'est le jour de guérison. Ce n'est pas le jour de condamnation. Nous avons nos têtes baissées, les yeux fermés. Père Ernest, nous allons prier et le Seigneur faire du bien.
Précieux Père Céleste, tu es là au milieu de nous ce matin pour un but précis. Parce que ta parole ne sort jamais en vain. N'est-ce pas qu'elle vient pour nous guérir? Nous guérir sur tous les plans. Et ce matin, tu as pointé les blessures intérieures. Seigneur, tu nous vois. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu n'envoies jamais cette parole pour quelqu'un d'autre qui serait en dehors de ces lieux. C'est nous qui sommes là, Seigneur. Et ceux qui écoutent cette parole au travers de médias, à qui tu as adressé cette parole ce matin, nous la recevons et nous sommes dans la joie. Parce que Seigneur, tu es réellement le seul qui possède l'antidote pour que nous ne puissions plus avoir la tête baissée et que nous puissions la lever ce matin à cause de ta bonne parole. Tu es là pour nous guérir. Merci pour la guérison que tu opères dans nos vies ce matin. Que ce soit ceux qui blessent ou ceux qui sont blessés, tous au pied de ta croix ce matin, nous sommes guéris. Bénis ta parole dans nos cœurs, car ta parole est la vérité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu béniras aussi ton serviteur. Et tu béniras le peuple au nom de Jésus.
Amen. Je sais que beaucoup sont dans les blessures intérieures et ils ne se sont pas manifestés. S'il vous plaît, voyez les hommes de Dieu. Et même à la fin, les conseillers seront là. Voyez-les. Venez dans la semaine, parlez avec les hommes de Dieu. Vous serez guéris. Nous allons prier.